Vous êtes sur RTL.
Place à l'info RTL Soir, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir pour deux heures d'infos avec vous et l'ensemble de la rédaction. Ce soir à la une, la cohabitation impossible. Aujourd'hui, sur ordre du gouvernement, la police a évacué les toxicomanes dans le nord de Paris. Depuis des mois, ils empoisonnent la vie des habitants. Seulement voilà, le problème semble simplement déplacé. Ces drogués ont été emmenés quelques kilomètres plus loin. Déjà, les maires de Seine-Saint-Denis en rage, RTL a rencontré des élus, des consommateurs de crack aussi, pour mieux cerner ce problème le sans fin. Les autres titres de l'actualité maintenant dans votre journal imminent. Marion Calais, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Pas encore candidat, il s'exporte déjà. Le déplacement d'Éric Zemmour en Hongrie, sommet de la droite identitaire et rencontre avec Viktor Orban, le Premier ministre anti-LGBT et défenseur d'une Europe chrétienne. Dans ce journal aussi, le nouvel appel de Greta Thunberg à l'action pour le climat et l'image des supporters de foot qui pâtit des récents débordements. 65% des Français désormais ont une mauvaise opinion d'eux, selon un sondage Odoxa pour RTL. Les courses à Vincennes dans le Quintet Plus ce soir. Dominique Cordier vous recommande de jouer le 14, le 2, le 13, le 3, le 12, le 11 et le 6.
Dans un quart d'heure, le couple franco-allemand résistera-t-il au départ d'Angela Merkel? J-2 avant des législatives capitales pour l'Europe outre-Rhin. L'ambassadeur d'Allemagne à Paris sera notre invité. Dans une demi-heure, dans les dessous de l'actu, Dallas au Pays Basque. Rien ne va plus à Biarritz. Mairie et gloire locale se déchirent autour du club de rugby. À suivre aussi, laissez-vous tenter dernière avec une jeune chanteuse à découvrir, Emma Peters. Et puis à 18h40, comme chaque vendredi, on va refaire nos régions. 20 minutes curieuses au plus près de chez vous avec Marion. Au menu des jeux vidéo contre Alzheimer, du vin à Tahiti, oui oui, des pièges à vététistes dans les Vosges et des macarons en Moselle. À 19h15, ils refont la France. Les journalistes étrangers, chaque vendredi, décryptent nos manies, notre actu autour de vous. Amandine Bégaud, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Le programme.
Et on va scruter le phénomène Zemmour. Est-ce que c'est le Donald Trump français, en tout cas aux yeux des étrangers? Je leur poserai la question.
Tout au long de l'émission, vos points météo. Valérie Quintin, bonsoir.
Bonsoir.
La tendance?
Des orages demain, ils sont déjà en embuscade en Espagne à l'heure qu'il est. Toute la façade ouest sera concernée, j'y arrive, demain. Dans le courant de l'après-midi, on va garder du soleil dans le nord et dans l'est et des températures comprises entre 21 et 31 degrés l'après-midi.
Le détail à la fin du journal.
RTL Soir.
Le journal. Julien Cellier. Marion Calais.
C'est la quatrième évacuation en deux ans et toujours dans un rayon d'à peine 2 kilomètres. Les consommateurs de crack du quartier des Jardins d'Éole à Paris ont encore été déplacés ce matin.
Après des mois de nuisances pour les riverains et après des tensions toujours plus vives entre la mairie, la préfecture de police et le ministère de l'Intérieur, c'est la place Beauvau cette fois qui a ordonné l'opération. Une cinquantaine de toxicomanes ont donc été évacués un peu plus au nord aux portes de la Seine-Saint-Denis.
Bonsoir Alice Moreno.
Bonsoir.
Vous vous êtes rendu sur place pour RTL, vous avez rencontré les riverains, les consommateurs, les élus, et malgré l'opération, ce qui ressort, c'est que personne n'est satisfait.
Ouais, à commencer par les riverains, Fatia ne croit pas une seconde à un départ définitif des toxicomanes.
Ouais, mais ils vont revenir. Ils vont revenir. Tu sais, même dans la journée, ils traînent partout, hein, même ici, mais ils vont traîner partout pour ramasser l'argent. Là, c'est la place de rendez-vous, là. Et après, ils vont partout, hein.
Driss observe les derniers camions de police qui quittent le jardin des Halles. Il consomme du crack, lui, depuis 20 ans.
Ça gênait les gens, donc je les comprends, hein. Il y a les enfants et tout ça. Mais il n'y avait pas d'endroit spécifique pour les consommateurs de crack. Alors que les gens qui s'injectent, hein, qui prennent des drogues dures, qui s'injectent, on leur trouve des salles.
Ils les ont emmenés porte de la Villette.
Ouais, bah voilà quoi, ça veut dire qu'ils les ont emmenés là-bas pour déplacer le problème, tout simplement. Et malheureusement, ce sujet-là, si vous regardez bien, ça ressort toutes les périodes d'élection.
Et il en est sûr, les consommateurs seront de retour au Jardin des Halles dès ce soir.
Mais vous savez, les gens là qui sont là, ils bougent pas. Hein. Ils bougent pas, faut les prendre par la main. Ils pensent, ils ont plus aucune autre idée que fumer quoi.
Vous avez envie de vous en sortir?
Ouais, bah, personnellement, je veux m'en sortir. Hein. Je suis en train de le faire. Bon, c'est vrai que c'est long. Avec les addictions, c'est compliqué.
Les habitants sont à bout. Ils interpellent Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris, qui s'est déplacé sur les lieux.
Je ne peux pas sortir seul avec mes enfants, monsieur le maire.
C'est pour ça qu'on est là.
Regarde, ça pue. Ouais. Plus qu'un an. C'est la même chose. C'est la solution, s'il te plaît.
Passe tous les jours, ouais. Mais il faut faire un accompagnement individualisé parce que sinon le risque, c'est que des petits groupes se reconstituent de ci, de là. Donc voilà, on va y travailler. Je sais que c'est long, je sais que c'est pénible. Voilà, on y est confronté, on est très mobilisé.
L'adjoint lui-même admet que c'est un problème impensé depuis 40 ans, sans cesse déplacé à quelques rues.
Et ce qui continue d'être pointé, Alice, après cette opération, c'est le manque de coopération entre les différents acteurs du dossier.
Oui, la préfecture de police et la ville notamment se renvoient la balle. Aujourd'hui encore, Emmanuel Grégoire pique le préfet.
Nous ne comprenons pas très bien que cette évacuation ait été organisée de façon totalement indépendante par la police, sans associer les partenaires qui auraient pu concourir à faire en sorte que ça se traduise par un meilleur accompagnement individuel et pas par un simple déplacement de la scène.
Les habitants se sentent otages de considérations politiques et désormais c'est aussi le cas Porte de la Villette où les consommateurs de crack ont été déplacés dans un parc près du périphérique.
Ça, c'est un jardin où les habitants, ce soit le soir, la journée, il y a des machines de sport. Moi d'habitude je viens avec mon fils pour faire du sport ici. Mais là ça va pas être possible. C'est pas une solution ici. Hein.
La ville espère une réunion au plus vite avec la préfecture pour trouver enfin une solution à long terme.
Explication et reportage signé Alice Moreno pour RTL. C'est un autre dossier sensible, celui de la présence du loup dans les Hautes-Alpes. Cette fois, un cap a été franchi. Le corps d'une louve a été retrouvé pendu devant la mairie du village de Saint-Bonnet-en-Champsaur avec ces mots sur une banderole. Réveillez-vous, il est déjà trop tard. Deux plaintes vont être déposées.
RTL, 18h, 6 minutes après un débat télé suivi par près de 4 millions de personnes hier soir, place à une entrevue beaucoup plus confidentielle ce matin pour Éric Zemmour.
Un rendez-vous à Budapest en Hongrie où vous êtes pour RTL, Julien Fautra. Le polémiste a été reçu par l'autoritaire Premier ministre Viktor Orban.
Oui, et la teneur des échanges reste ce soir encore très secrète, mais deux éléments émergent. D'abord, les opinions des deux hommes sont les mêmes, semblables sur la question de la famille, de l'Europe ou de la nation. Secondo, l'origine de tous les maux, selon Viktor Orban et Éric Zemmour, c'est l'islam.
On a parlé d'histoire, des grandes migrations, des mouvements entre le nord et le sud de la Méditerranée, entre l'Orient et l'Occident, entre la chrétienté et l'islam, des vagues incessantes depuis 1000 ans, des affrontements incessants depuis 1000 ans.
Éric Zemmour est arrivé, carreau ouvert, a répondu aux questions. Il voulait montrer qu'il était reçu en grande pompe par un chef d'État.
Mais le retour sous le feu des projecteurs n'a pas traîné parce qu'Éric Zemmour a pris la parole cet après-midi à la tribune d'un sommet de la droite identitaire sur la démographie.
Oui, Éric Zemmour a poursuivi l'immigration et son thème du grand remplacement, martelé de façon décomplexée.
Nous avons une population africaine, arabo-musulmane très importante, qui a une natalité beaucoup plus exubérante que la population de souche. Ce qu'on appelle en France le grand remplacement, qui est une notion contestée par nos élites, mais qui est une réalité dans beaucoup d'endroits.
Cette théorie raciste du grand remplacement, l'idée que les populations musulmanes seraient en train de remplacer les Européens judéo-chrétiens, c'est devenu un totem de l'extrême droite française.
Julien Fautra, envoyé spécial de RTL à Budapest, en Hongrie. À Berlin, on n'a pas parlé famille, mais climat, à deux jours des élections qui vont désigner le successeur d'Angela Merkel, mobilisation des défenseurs de l'environnement.
Et notamment des plus jeunes pour cette 8e journée de grève climat à travers le monde, avec dans la foule son initiatrice, la Suédoise Greta Thunberg.
Voter, c'est bien, dit Greta Thunberg, mais il faut faire plus et continuer de nous mobiliser, descendre dans la rue comme nous le faisons aujourd'hui. Nous voulons le changement, nous exigeons le changement, a-t-elle dit.
Le message de Greta Thunberg, donc à deux jours de ces législatives en Allemagne, sur lesquelles on reviendra dans quelques minutes avec notre invité dans RTL Soir, l'ambassadeur d'Allemagne à Paris. Votre journal va se poursuivre dans un instant avec les dénégations d'Alexandre Benalla sur les violences du 1er mai 2018, à tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier,
RTL Soir.
Et donc la suite de votre journal, comme promis, 18h, 10 minutes, vous écoutez RTL envers et contre tout. Il se défend, nouvelle journée d'audience au procès d'Alexandre Benalla.
Avec la diffusion des vidéos des violences commises place de la Contrescarpe à Paris, en marge des manifestations du 1er mai 2018, Guillemette Franquet, vous suivez les audiences pour RTL et malgré les images, l'ancien chargé de mission de l'Elysée tente toujours de minimiser.
Et même de minimiser l'évidence. Les vidéos de la contre-escarpe sont visionnées plusieurs fois. La salle s'émeut quand Alexandre Benalla interpelle violemment un jeune homme. Mais à la barre, l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron explique ne pas avoir porté de coup volontaire. Le juge s'arrête d'abord sur une première image. On voit Alexandre Benalla tirer violemment le jeune Georgios. « Je l'agrippe par le biceps gauche », explique l'ancien chargé de mission. Le juge feint de s'étonner. Ce n'est pas un étranglement. Alexandre Benalla, stoïque, ignore l'ironie du magistrat. Non, c'est une clé de contrôle. Abasourdi par sa mauvaise mauvaise foi, la salle s'esclaffe. Alexandre Benalla, voix rouge, demande d'arrêter de rire, évoque les parties civiles présentes dans la salle. Le procureur puis le juge interviennent. Ne parlez pas des parties civiles, tonne le juge. Second arrêt sur image, le coup qu'Alexandre Benalla porte sur la tête du jeune homme. Ma main tombe avec lui, Georgios essaye de fuir, réplique-t-il. Puis on voit son pied sur le thorax du jeune homme. Là, je suis déséquilibré, je sautille, je l'effleure une demi-seconde. Et Alexandre Benalla joint le geste à la parole, sautille au tribunal. Image après image, il se trouve des excuses, puis il conclut « Mettre un coup, c'est pas ma manière d'être ».
Un récit d'audience signé Guillemette Franquet pour RTL. Les incidents de la semaine ne vont rien arranger. L'image des supporters de foot se dégrade aux yeux des Français.
Oui, c'est ce que prouve notre sondage hebdomadaire Odoxa Kenéo pour RTL. Jean-Michel Rascol, après les débordements récents, notamment Nice, Marseille, Lens, Lille, les Français ont désormais majoritairement une mauvaise opinion des supporters.
Oui, seuls 35% des Français ont une bonne opinion des supporters de football. Un résultat en baisse de 10 points en 6 mois. Si les supporters sont perçus comme joyeux et indispensables au spectacle, une majorité, 57%, les qualifie d'idiots. Plus grave, 55% les trouvent dangereux. 53% des personnes interrogées estiment que l'on n'est plus en sécurité dans un stade de football. Il existe une réticence marquée d'ailleurs à s'y rendre désormais avec des enfants. Toutes les sanctions envisagées sont approuvées, avec une préférence à 85% pour des sanctions individuelles. Position prise justement clairement ce matin par Arnaud Pouille, le directeur du RC Lens, qui s'engage à prononcer des interdictions de stade à l'encontre des individus qui ont pénétré sur la pelouse de Bollaert samedi dernier. Les 17 personnes déjà identifiées risquent des interdictions allant de 9 mois à 3 ans.
Jean-Michel Rascol, merci.
Et alors, quelles sanctions pour rassurer les Français et leur permettre d'aller sereinement au stade avec leurs enfants? On posera la question tout à l'heure au commissaire, le grand flic, patron de la Division nationale de lutte contre le hooliganisme, Thibaut Delaunay, qui sera notre invité à 19h.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
C'est une première. Depuis 37 ans, une Française a remporté le tournoi des Petits As.
Ah, je croyais qu'on avait gagné Roland-Garros.
Non, c'est pas encore ça. Un tournoi organisé chaque année à Tarbes et qui a vu éclore les plus grands noms du tennis. Ainsi sont imposés notamment Martina Hingis ou Raphaël Nadal. Ça pose un peu la compétition. On souhaite autant de succès à la jeune Mathilde Njijol, carré presque 14 ans.
C'est noté. On suivra son parcours. Merci beaucoup Marion. À tout à l'heure. Le temps maintenant, Valérie. Ça ressemble à quoi demain? Ça se gâte, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Ça va
c'est
se gâter.
Fini, c'est
alors,
l'automne.
Alors, c'est pas
c'est
totalement
parti pour 6 mois.
Terminé. Non, on va espérer que non. Déjà, demain matin, la matinée sera pas mal quand même.
D'accord.
Relativement bien ensoleillée, un soleil voilé, mais déjà quelques averses orageuses de la Vendée au Pays Basque, des températures au réveil qui iront de 7 degrés à Charleville-Mézières à 18 degrés à Menton. Et naturellement, dans le courant de l'après-midi, ces orages vont avancer. Ils gagneront toute la façade ouest, mais aussi le Limousin et la totalité de l'Occitanie. Pendant ce temps-là, entre la Normandie, l'Île-de-France, le nord et l'est, on devrait pouvoir garder ce soleil, certes un petit peu palichon, mais enfin, il sera tout de même là. Notez qu'il pourra quand même y avoir 2-3 averses entre les Alpes et la Corse dans l'après-midi. Les températures iront de 21 à 31 degrés, donc certes, on a des orages, mais on n'a pas trop froid, de Cherbourg jusqu'à Ajaccio, 24 à Rennes, 25 à Paris, 27 à Bordeaux et Mâcon et 28 à Toulouse, à Perpignan et à Lyon.
Merci Valérie.
Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur rtl.fr.
Julien Cellier,
RTL Soir.
Allez, 18h14 et sur RTL, nous voulions ce soir nous arrêter sur cette petite révolution dans le monde de la mode. Saint Laurent bannit la fourrure de ses collections. L'ensemble du groupe de luxe Kering d'ailleurs en braille. Sur RTL, nous nous sommes demandé si c'était la fin des tendances vison automne-hiver et donc nous allons poser 3 questions maintenant à la brigade RTL. Bonsoir Virginie Garin.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Alors ce n'est pas une première dans le luxe. Hein.
Non, depuis 7 ans, les unes après les autres, les grandes marques abandonnent la fourrure. Parmi les premières, il y avait Calvin Klein. L'association de protection des animaux PETA avait recouvert de graffiti les bureaux de la marque à New York. La pression des ONG est efficace. Et puis depuis, Chanel, Gucci, Balenciaga, Versace ont banni la fourrure animale de leur collection. La mode, en revanche, était revenue pour les cols d'anorak dans le prêt-à-porter. Mais la mode est souvent dictée par l'industrie du luxe, donc la fourrure pourrait devenir ringarde.
Il y a toutefois certaines grandes maisons qui continuent.
Ah bah, il reste le numéro 1 mondial du luxe, LVMH, ouais. Vuitton, Givenchy, Christian Dior. La fondation Brigitte Bardot l'appelle à rejoindre le mouvement, mais il n'en est pas question pour le groupe qui dit avoir créé une charte du bien-être animal et qui a interdit les fourrures d'espèces en danger.
Et cette fourrure, dites-nous, elle est produite où? Chez nous en France par exemple,
hein? Alors, beaucoup d'Asie, du Danemark, mais aussi effectivement en France. Il reste 4 fermes d'élevage de visons chez nous, dans des conditions jugées assez épouvantables par les ONG, des visons qui tournent en larons dans des cages minuscules et qui se mutilent. Les Belges, les Norvégiens ont fermé leurs élevages. La France a fini par le décider, mais ce ne sera pas avant 4 ans. Outre la souffrance animale, ces fermes sont des réservoirs à virus. Souvenez-vous, l'an dernier, des élevages de visons ont été touchés par le coronavirus et risquaient de transmettre à l'homme des mutants. Le Danemark, premier exportateur mondial, a dû abattre ses 15 millions de visons. Ce type d'élevage n'a plus beaucoup d'avenir.
15 millions de visons d'élevage au Danemark, c'est absolument incroyable. Des chiffres effarants. Merci beaucoup Virginie, les explications de la Brigade RTL pour vous servir tous les soirs. Une pause et ensuite clap de fin. Angela Merkel a connu Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron, mais la chancelière s'en va. Qui va lui succéder ? Élection législative intéressante pour la France, pour l'Europe, dimanche outre-Rhin. Est-ce que le couple Paris-Berlin va rester uni ? Nous allons poser la question à l'ambassadeur d'Allemagne. Il sera avec nous juste après ça sur RTL. A tout de suite.
RTL Soir
avec Julien Cellier. Julien Cellier,
RTL Soir.
Allez, bonne fin de journée, bonne fin de semaine. Vous écoutez RTL et ce soir, nous avons décidé de nous intéresser à nos voisins parce que nous sommes à la veille d'un week-end de capital. Un week-end qui va peut-être rebattre les cartes en Europe. Dimanche, élection législative en Allemagne. Qui succédera à Angela Merkel à la tête du pays depuis 2005 pour nous éclairer sur ce scrutin, sur ses enjeux pour nous les Français, sur son mode d'emploi. Ce soir, notre invité est Hans-Dieter Lucas. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes l'ambassadeur d'Allemagne à Paris. Alors déjà, il faut prévenir les Français parce que c'est assez étonnant vu de chez nous. On ne connaîtra sans doute pas le nom du futur chancelier dimanche soir, c'est bien ça ?
Oui, c'est une élection tout à fait ouverte. Donc il y a les sondages selon lesquels les sociaux-démocrates sont en tête. Mais enfin, ce qui compte, c'est la question qui va former une coalition qui va finalement élire le chancelier ou la chancelière.
Oui, parce qu'il y a de multiples coalitions possibles en fonction effectivement des résultats. Vous l'avez dit, 3 favoris. Olaf Scholz pour les sociaux-démocrates, les conservateurs d'Armin Laschet, les Verts d'Annalena Baerbock, mais les libéraux, la gauche radicale, pourraient être amenés à participer au gouvernement, ce qui nous offre un spectre de coalition très large. Est-ce que cela signifie qu'on risque d'avoir des tractations pendant des semaines, peut-être, pour former une coalition capable de gouverner ?
Normalement, ça prend quelques semaines pour décider la question qui va former la coalition. Il y a aussi des négociations sur un traité de coalition. Mais je pense que tout le monde espère qu'on aura un nouveau gouvernement à Noël.
À Noël. Donc ça veut dire que pendant ce temps-là, Angela Merkel reste aux affaires.
Oui, oui. Elle va gérer les affaires courantes. C'est-à-dire qu'il y a toujours un gouvernement allemand qui fonctionne.
Ce qui est intéressant, c'est que vous parlez d'un traité. En fait, l'accord pour gouverner entre les partis, il a une valeur juridique chez vous. Parce que chaque parti fait des concessions. On se met d'accord sur le programme avant même de gouverner. Tous les sujets de discorde, du coup, sont mis sur la table. Et si le traité n'est pas respecté, le gouvernement peut exploser. C'est assez intéressant, vu d'ici.
Oui, c'est tout à fait intéressant parce que c'est vraiment, je pense, un avantage pour un gouvernement de coalition de fixer les grandes orientations, les buts d'une coalition. Ça facilite le travail, mais ça mène aussi à la nécessité de toujours de faire des compromis entre les différences. C'est-à-dire la politique allemande est fortement caractérisée par une culture de compromis.
Votre classe politique est peut-être plus mature que la nôtre, plus pragmatique.
Bon, c'est pas une question de la maturité, mais évidemment, donc la culture politique française n'est pas la même qu'en Allemagne. Mais c'est naturel, ce sont deux pays.
Oui, ben justement, tiens, éclairez-nous sur ces différences parce que on a regardé votre campagne vue de France et on s'est rendu compte, par exemple, que l'immigration était un thème quasi absent de la campagne des législatives en Allemagne, alors même que vous avez accueilli plus d'un million de réfugiés ces dernières années. De ce côté-ci du Rhin, notre baromètre BVA ce matin montre que l'immigration est seulement la 7e préoccupation des Français. Et pourtant, c'est un thème récurrent dans cette pré-campagne à quelques mois de l'élection présidentielle. Comment vous expliquez ces différences ?
Bon, je peux seulement parler pour l'Allemagne et pour les Allemands. Il me semble qu'il y a deux ou trois thèmes principaux. C'est tout d'abord le changement climatique qui est vraiment en tête des soucis des Allemands. Il y a la situation économique et sociale, donc après la fin de la pandémie. Et c'est aussi donc la transition numérique, tandis que vous avez tout à fait raison, tandis que les questions de la sécurité intérieure ou l'immigration et l'intégration ne sont pas tellement intéressantes pour les Allemands. Ce sont plutôt des sujets pour l'extrême droite.
Alors, depuis 2005, Angela Merkel était la partenaire de la France. C'est vrai que le couple franco-allemand incarnait une forme de stabilité grâce à la chancelière qui a connu quatre locataires de l'Élysée entre Jacques Chirac et Emmanuel Macron. Est-ce que vous craignez un affaiblissement de ce couple à l'avenir et peut-être une forme d'instabilité en Europe aussi avec le départ d'Angela Merkel?
Non, je pense qu'il y aura, en ce qui concerne les relations franco-allemandes, beaucoup de continuité. Si vous regardez les deux candidats et les candidates, ce sont tous des Européens convaincus pour lesquels aussi la relation franco-allemande est tout à fait fondamentale. C'est-à-dire pour la classe politique allemande, vraiment, la France est le partenaire principal en Europe, et je pense que cette grande orientation ne va pas changer.
Il y a un consensus aujourd'hui entre les trois candidats sur l'Europe, sur la nécessité d'une Europe forte, d'un couple franco-allemand fort, d'une Europe de la défense peut-être aussi au vu des dernières crises.
Oui, tout à fait. C'est vraiment un point d'accord entre la France et l'Allemagne. Donc il faut vraiment renforcer la souveraineté européenne sur le plan industriel, technologique, mais aussi sur le plan de la défense. Donc ça, c'est hors question.
Ça veut dire que cette crise des sous-marins que la France a vécue avec les États-Unis, elle a provoqué aussi un électrochoc dans la classe politique allemande.
On a souligné le fait que aussi l'Allemagne partage l'irritation des Français en ce qui concerne cette affaire des sous-marins. Mais je pense que c'est aussi un coup de semence parce que cette affaire nous a montré la nécessité vraiment de renforcer donc la souveraineté européenne également sur le plan de la défense. Et c'est ce qu'on fait. Par exemple, dans le cadre des grands projets d'armement franco-allemand, par exemple dans le cadre du SCAF.
Juste pour terminer, monsieur l'ambassadeur, qu'est-ce que les Allemands vont retenir d'Angela Merkel?
Oui, tout d'abord, je pense qu'elle est perçue comme une garante de stabilité. Elle a géré maintes crises importantes, la crise financière ukrainienne, migratoire, la crise Covid finalement. Mais elle a aussi pris des importantes décisions, par exemple la sortie du nucléaire, le mariage pour tous, la sortie du service militaire obligatoire, la crise migratoire. Elle a, avec le président Macron, elle a conclu le traité et d'Aix-la-Chapelle sur la coopération franco-allemande et finalement aussi pris l'initiative avec le président Macron pour un plan de relance européen. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qu'elle a fait pour l'Allemagne et pour l'Europe, et je pense que les Allemands vont retenir ça.
Merci Hans-Dieter Lucas, ambassadeur d'Allemagne ici en France, d'avoir été ce soir notre invité sur RTL à deux jours de ces élections législatives dans votre pays si importante pour le couple franco-allemand. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur rtl.fr.
Allez, une petite pause et dans un instant, RTL Soir continue avec tout autre chose. On va vous emmener au Pays Basque parce que Biarritz, c'est Dallas. Micmac autour du club de rugby. Entre rumeurs de déménagement à Lille et douche des joueurs à l'eau froide, tension maximale entre le club et la mairie. On va tout vous raconter dans les dessous de l'actu. Restez avec nous parce que ça vaut le coup d'oreille. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Sellier.
RTL à vos côtés en cette fin de journée, cette fin de semaine, 18h30.
RTL Soir avec Julien Sellier.
Et si vous nous rejoignez, eh bien c'est l'heure de refaire le point sur les grands titres de l'actualité. Marion Calais.
Des entretiens téléphoniques en cascade après Joe Biden. C'est avec le Premier ministre britannique qu'Emmanuel Macron s'est entretenu suite à la crise des sous-marins. Entretien au cours duquel ils ont convenu de continuer à travailler en étroite collaboration à travers le monde. Après son arrestation en Sardaigne, le leader indépendantiste Carles Puigdemont libéré avec autorisation de quitter l'Italie selon son avocat. Et puis, nouveau forfait pour Lionel Messi. Déjà absent mercredi contre Metz, l'attaquant argentin ne jouera pas demain contre Montpellier à cause d'une contusion au genou.
Merci Marion. Le temps, Valérie, le retour de l'instabilité.
Oui, des orages dès demain matin sur la façade ouest. Toute la moitié ouest ainsi que l'Occitanie seront concernés dans le courant de l'après-midi. Ailleurs, on devrait conserver un soleil un petit peu voilé, mais rien de plus. Les températures resteront très clémentes malgré tout. 24 degrés à Nantes et à Béthune dans l'après-midi, 25 à Paris et Nice, 28 degrés à Montauban et 31 à Ajaccio.
Merci Valérie.
RTL Soir, les dessous de l'actu.
Et ce soir, dans les dessous de l'actu, RTL vous emmène à Biarritz. Alors pourquoi ? Parce que cette semaine, le club de rugby a annoncé vouloir jouer certains de ses matchs à Lille, à l'autre bout du pays. Donc l'équipe de RTL Soir a cherché à comprendre pourquoi. Et nous avons découvert un épisode de Dallas, au Pays Basque. Bonsoir Denis Granjou.
Bonsoir Julien, bonsoir à toutes et à tous.
Tension assez incroyable, maximale, entre le club et la mairie. Rien ne va plus, et finalement depuis longtemps.
Oui, il y a quelques semaines, Jean-Baptiste Aldiger, le président du BO, a créé la sensation en promettant de déménager à Lille, la métropole du Nord qui cherche à accueillir un grand club de rugby depuis longtemps, parce que Jean-Baptiste Aldiger considère que les conditions de travail des joueurs sont de plus en plus déplorables dans le vieux stade Aguilera, et à Lille, tout pourrait changer, à commencer bien sûr par le nom du club. Alors coup de bluff ou pas, on écoute Jean-Baptiste Aldiger.
Aujourd'hui, le sujet, c'est pas Lille ou pas Lille. Non, le sujet, c'est pourquoi tout ça. Alors, j'ai envie d'envoyer un message à tous ces gens-là, leur dire, vous m'aimez pas. Mais malheureusement, c'est parce que vous avez rien foutu pendant 20 ans que vous êtes retrouvés avec la seule solution d'avoir des mecs venus de Hong Kong qui ont fait un chèque pour vous sauver. Donc, mettez-vous au boulot et un jour, vous n'aurez pas besoin des mecs de Hong Kong que vous aimez pas. Moi, je vous dis, mesdames et messieurs, maintenant, arrêtez tous de parler, arrêtez tous de faire des photos en répondant aux vrais besoins du club. À part qu'aujourd'hui, vous faites quoi, madame le maire ? Absolument rien.
Parce qu'on précise que l'investisseur est basé à Hong Kong. Est-ce que la mairie accusée répond ?
Alors, pour l'instant, Julien, pas question pour la mairie de répondre vraiment et ni d'entreprendre des travaux de rénovation. Et le dialogue semble totalement impossible entre les deux parties. Écoutons Maider Arostegui, la maire de Biarritz, interrogée par Jean-Michel Rascol.
Écoutez, la communication du président Aldiger depuis son arrivée a été d'une violence parfois gratuite. Des coups de menton, des mensonges, des indélicatesses et des franchissements, y compris envers la loi. Et quoi qu'il en dise, je continuerai à créer les meilleures conditions pour que notre club centenaire, le BOPB, reste sur son terrain d'origine, qui est la ville de Biarritz.
Sympa cette ambiance. Que disent les supporters, Denis, les amoureux du club ?
Alors c'est pratique, au rugby compte les points, tout en se régalant malgré tout des résultats de l'équipe qui est plutôt bien partie cette saison. Alors une chose est sûre, pour avoir visité le stade, Julien, il y a quelques jours, je peux vous dire que la moisissure est vraiment partout dans les vestiaires. Et effectivement, il n'y a pas d'eau chaude. Et détail important, lorsqu'un supporter fait tomber un verre depuis la tribune, Serge Blanco, construite en 1975, le liquide coule directement dans le bureau des coachs.
Ah oui.
J'ai vu la coulure sur un mur, c'est impressionnant. Et puisque je parle de Serge Blanco, sachez qu'il devrait s'exprimer sur ce sujet sensible la semaine prochaine. Et puis ceux qui cherchaient un successeur à Mourad Boudjelal, le tonitruant ancien président de Toulon, ouais, dans le monde du rugby, on peut peut-être trouver en Jean-Baptiste Aldiger un successeur. D'après mes infos, il pourrait bientôt faire à nouveau des annonces fracassantes. En attendant, il sera demain avec son équipe à La Rochelle, et là, Julien, là, il y a de l'eau chaude sous les douches.
Ah bah, paraît-il, oui, à La Rochelle, effectivement. Voilà, on vous avait prévenu, hein, c'est Dallas au Pays Basque. On suivra les prochains épisodes du feuilleton avec vous, Denis Granjou. Merci beaucoup.
Avec plaisir.
RTL Soir,
les dessous de l'actu.
Allez, RTL, 18h34.
Laissez-vous tenter, dernière.
Et tous les soirs, effectivement, les bons conseils de la bande de LVT pour occuper vos soirées et même occuper le week-end, parce que nous sommes vendredi soir. Ce soir, une vraie découverte musicale. Bonsoir Julia Molcou.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Elle s'appelle Emma Peters, c'est ça ?
Oui, elle a 24 ans et son deuxième mini-album, Le Temps Passe, est sorti ce matin.
Je veux pas que le temps passe. Je sens que je t'oublie un peu. Bientôt il n'y aura plus une trace.
Ça, c'est très joli. J'adore. Vous pouvez nous parler un petit peu d'Emma Peters ?
Mais avec plaisir. Emma Peters est née à Senlis, dans l'Oise, au sein d'une famille mélomane qui allait à la messe en écoutant très fort Véronique Sanson, Michel Berger et MC Solar dans la voiture. J'adore cette image. Elle commence la guitare à l'âge de 7 ans et 10 ans plus tard, elle lance sa première chaîne YouTube. Parce que là, la musique est vraiment devenue la seule chose qui compte pour elle. Au départ, elle fait des reprises, bien sûr. Et puis un matin, elle se dit qu'elle veut chanter ses mots et ses notes. Et franchement, c'est très réussi.
C'est pas moi qui fixe les règles, mais c'est moi qui tire les cartes. Et si demain tu m'agaces, de ma vie je t'écarte. Y'a pas de place pour les jaloux, les rageux, les envieux. Aimons-nous maintenant, demain j'ai peur qu'on soit trop vieux. Les plus belles histoires sont celles qu'on se fait dans la
tête. Qu'est-ce qui l'inspire pour écrire?
Ah, mais écoutez, comme beaucoup d'artistes, hein, l'amour.
Ah bah oui,
bah
forcément.
Oui. Alors voilà, elle est très jeune, donc elle chante l'amour à son âge, le désamour de son âge. De toute façon, elle chante son époque, sa génération. Elle est très très forte.
Je te maudis tous les jours. Et chaque soir, ça me déforme. Plein de bouteilles sur mon parcours, mais ça n'y change rien. C'est toi le cocktail qui m'entoure.
Voilà, en attendant de la voir peut-être bientôt sur scène, Emma Peters a sorti ce matin Le Temps qui passe, un petit album mais tellement riche et tellement réussi.
Un petit album à déguster ce week-end.
C'est et qu'on a bien repéré avec les copains de la musique d'RTL.
Oui, ça sent la programmation, ça, sur RTL, effectivement, ça sent le carton. Merci beaucoup, Julia, et on vous retrouve demain matin sur RTL de bonne heure avec la bande de Stéphane Carpentier, la joyeuse bande. On marque une courte pause. Dans un instant, on va refaire nos régions, comme chaque vendredi, avec Marion Calais, nos correspondants dans toute la France. 20 minutes curieuses, positives, avec au programme des jeux vidéo contre Alzheimer dans la Sarthe, du vin à Tahiti, des pièges anti-VTT dans le massif des Vosges et des macarons en Moselle. A tout de suite, près de chez vous.
On refait nos régions, c'est dans un instant sur RTL.